Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de réforme. La réforme en islam, voilà encore le sujet qui revient parce qu'il est d'actualité. La réforme en islam, la réforme de l'islam, c'est toujours la préposition « de ». Est-ce que c'est « en » Quelques clés de lecture pour comprendre encore une fois ce sujet si crucial de nos jours. J'ai plaisir à recevoir le professeur Karim Ifrak. Karim Ifrak, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Merci de venir nous aider à comprendre. Les auditeurs vous en sauront gré. Vous êtes chercheur au CNRS, codicologue, spécialiste des textes et de leur histoire et comment ils ont été fixés. Vous êtes islamologue. Et donc, vous me pardonnez le terme très prosaïque et familier, vous coltinez, vous aussi, cette charge de réfléchir et de donner quelques clés de lecture à propos de la réforme. D'abord, pourquoi êtes-vous amené vous-même à y réfléchir? Et puis, vous avez quelques idées qui vous sont propres.
Vous avez bien raison de poser cette question, parce que ce qui vient tout de suite à l'esprit pour les gens qui sont un petit peu habitués à ce type de littérature, c'est de se demander, au regard de tout ce qui a été écrit auparavant, et si on prend juste depuis le début du siècle, il y a des dizaines de titres qui sont sortis, certains ont fait plus de bruit que d'autres, mais dans le fond, il y a beaucoup de littérature produite dans ce sens. Et donc la question qui pourrait venir, mais c'est de se demander pourquoi un énième livre? Bien évidemment, ce livre, il n'a pas la prétention d'apporter un éclairage intégral ou d'apporter sans grain de sel en expliquant ce que c'est que la vérité au niveau de la réforme, mais tout simplement, il a la prétention d'apporter quelques éclairages sur quelques zones d'ombre qui, à mon sens, ont été un petit peu délaissées parce que chaque auteur, il avait son orientation, il avait son sujet sur lequel il se battait. Et le propre de ce livre, c'est juste d'apporter un peu de lumière pour comprendre ce que c'est que la question de la réforme en islam.
Alors, vous y allez très d'emblée, très vite, à propos de la question fondamentale qui est-ce que l'islam est une religion réformable?
Oui, tout à fait. Parce que la question de la réforme en islam se pose tout le temps. Et à partir du moment qu'elle se pose, elle impose la question de savoir est-ce que d'emblée, l'islam est une religion réformable. Alors à travers le livre, j'essaie de donner quelques exemples qui apportent leur lot de preuves que la religion est réformable, une façon de répondre à ceux qui doutent de cette singularité.
Certains, toujours en se référant au Coran, il faut être extrêmement prudent quand on exhibe des versets coraniques. Il y a ces versets qui, du verset 8 au verset 12 de la sourate 2, la sourate dite de la vache, qui dit que parfois, par hypocrisie et sous prétexte de réformer, on sape la dite religion. Donc il y a déjà presque cette mise en garde au nom du Coran lui-même. Et vous surpassez. En relativisant ce passage à son contexte, cette idée-là.
Les versets que vous venez de citer ne parlent pas à proprement dit de réforme, mais parlent d'un projet subversif de saper un petit peu l'esprit et les fondements de la religion islamique. Ce qui n'est pas le cas par rapport à la réforme. La réforme, elle est là pour apporter, restaurer des éléments qui se fragilisent ou des éléments qui rencontrent des situations inédites ou des éléments qui exigent qu'on réfléchisse en profondeur à une certaine question, soit de l'abandonner, soit de la transformer, soit de lui rajouter certains éléments ou d'en enlever. Ce qui fait que la réforme proprement dite n'a rien à voir avec l'esprit des versets que vous venez de citer.
Je continue. D'autres vont vous dire, d'accord, vous nous affirmez, et avec d'autres, que la tradition religieuse islamique et la religion elle-même sont réformables, mais nous n'éprouvons pas le besoin réel de réformer.
Après, on n'est pas dans la posture de celui qui voudrait imposer une réforme. La réforme, lorsqu'elle se pose, la question de la réforme, lorsqu'elle se pose, c'est parce que ces acteurs pensent qu'il est venu le temps de restaurer quelque chose. C'est un petit peu l'image d'une maison qui a pris de l'âge et qu'à un moment, il va falloir la rafraîchir. Soit on lui donnait un petit coup de peinture ou de ravaler la façade ou de faire quelques travaux grands ou petits pour lui donner une certaine fraîcheur. Ben, l'islam, il est dans le même cas. Parce que bien souvent, ce que les gens confondent, c'est entre l'islam en tant que pensée religieuse organique et toute la partie derrière qui est la chair de l'islam, c'est-à-dire que tous les travaux de pensée qui sont venus se greffer à cette pensée organique et qui ont formé le corps de l'islam, mais qui ne sont pas sa pensée organique. Il est important de faire le distinguo entre ces deux frontières.
Karim Ifrak, c'est votre métaphore qui me pousse à vous poser cette question. S'agit-il d'une maison qui commence à se fissurer, à se lézarder et dont il faut ravaler la façade et puis la consolider, ou s'agit-il simplement de la déconstruire au sens premier du terme, c'est-à-dire prendre pierre par pierre parce qu'on y tient et la reconstruire à nouveau sur des fondations solides?
Vous savez, pour répondre à votre métaphore, il me vient une autre métaphore qui est celle du calife Ali, qui dit que la science, c'est un simple point que les ignorants ont élargi au maximum. Pour expliciter un petit peu son idée, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée organique islamique, c'est quelque chose d'assez simple. Et que au fur et à mesure des aléas, des besoins, des contraintes, etc., etc., il a été élargi au maximum. Alors si la réforme doit intervenir, eh ben, elle doit intervenir sur ce qui a été élargi et non pas toucher au cœur du système. Parce que le cœur du système, si vous le réformez, ben, vous n'êtes plus dans ce système-là, vous êtes dans autre chose.
Passons maintenant à une autre question. Admettons, et nous sommes convaincus, que la réforme est nécessaire, mais qui va s'en occuper? Quelles sont les autorités? Quels sont les initiateurs? Quels sont les protagonistes? Quels sont les acteurs de cette réforme?
Alors, une réforme, elle convoque deux acteurs. Premièrement, il faut que l'acteur de la réforme soit une personne légitime, au niveau de la connaissance au niveau de la question qu'on veut réformer, mais également le second acteur, c'est le pouvoir central, le pouvoir légitime, parce que une réforme sans le concours de ces deux acteurs, elle ne peut être que bancale et elle n'aboutirait plus ou moins à rien. Il est évident qu'il y a eu des acteurs qui ont commencé une réforme sans le concours du pouvoir, voire même contre le pouvoir, mais à un moment donné, le pouvoir finit par les rejoindre, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, il finit par les rejoindre pour apporter cette assise fondamentale à toute réforme.
Alors quand vous évoquez le pouvoir, vous parlez du pouvoir politique ou d'un pouvoir cléricale, théologique?
Je parle du pouvoir politique et quand je parlais tout à l'heure de l'acteur qui doit être légitime, ben il doit être soit dans le corps du corps théologique ou alors juste proche.
Mais ça, c'est dans des contextes dont certains, grâce à la réforme, veulent s'en sortir, où il y a une collusion, en tout cas parfois une interpénétration entre les deux ordres, l'ordre politique et l'ordre religieux, mais ceux qui souhaitent amener cette réforme sous des climats un peu plus cléments au-dessus de leur tête et dans des contextes démocratiques, voire dans des sociétés sécularisées avec des institutions laïques, on n'a plus besoin de la caution du pouvoir politique.
Je pense que cette caution du pouvoir politique, selon l'espace plus ou moins démocratique dans lequel évolue, bien qu'on a le sentiment qu'elle n'a pas la main sur la question, mais elle n'est jamais loin. Le pouvoir politique, il est là, il veille, il observe les choses, et au fur et à mesure de la réponse que va avoir ces actions-là dans l'opinion publique et dans la société, il finit par agir ou interagir. C'est-à-dire que finalement, qu'on le veuille ou non, le pouvoir, il est toujours là, toujours présent. Il y a des pouvoirs qui sont plus discrets que d'autres, mais ils sont toujours là et ils accompagnent quand même les réformes.
Ça se traduit comment? Par une politique de subvention, de mécénat d'État, d'aide, de propagation de ces idées réformatrices, ou tout simplement en étant dans une bienveillante neutralité, à supposer que la neutralité puisse être qualifiée de bienveillante ou malveillante d'ailleurs.
Écoutez, pour répondre à votre question, il faut prendre en considération le fil du temps. Ces questions de démocratie et de bienveillance appartiennent un petit peu aux nations modernes actuelles. Lorsqu'on remonte un peu plus dans le temps, on se rend compte que ces notions de démocratie, de bienveillance étaient inexistantes. Ce qui signifie que le pouvoir en général, soit il accompagnait la réforme parce qu'elle l'arrangeait pour X raisons, soit il va essayer de la minimiser. En tout cas, il va finir par intervenir d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, les choses, ils ont bien changé, mais ils ont changé où? Dans quel espace? Dans l'espace européen, dans l'espace occidental, et dans cet espace, il y a bien évidemment un dégradé par rapport à cette sensibilité. Il y a des pays qui sont beaucoup plus tolérants que d'autres dans cet espace démocratique, bien évidemment. Mais lorsqu'on revient, et là, si on prend, puisqu'on est considéré quand même par la question de l'islam, si on revient dans les pays musulmans, ah ben cette démocratie, elle se fragilise, et bien évidemment, la main du pouvoir, elle est de plus en plus épaisse.
Oui. Et donc le but de la réforme, c'est de pouvoir libérer la question religieuse, si tant est que ça soit possible véritablement, de la mainmise du pouvoir politique dans ces contextes-là. Parce que pour certains, même l'appellation pays musulman est problématique. Il s'agit de la société qui est majoritairement musulmane, mais le pays est surtout l'État qui est un instrument politique, comme disent certains. Chez Spinoza, on dit même que il y a de l'État quand il y a moins d'éthique, n'a pas de confession. L'État ne peut pas être...
C'est vrai et pas vrai en même temps.
Alors, parce que... c'est la partie qui n'est pas vraie qui nous intéresse.
Alors, c'est vrai dans le cas, si on prend le cas de l'Irak ou de la Syrie ou de la Tunisie, qui se disent des États laïcs, mais ça n'est pas le vrai dans le cas de l'Égypte, du Maroc. Je ne sais pas si c'est le cas aussi certainement le cas de l'Arabie Saoudite, où c'est notifié dans leur dostour que...
Le dostour étant la constitution, la loi fondamentale.
C'est ça, dans leur constitution, que ce sont des pays fondamentalement islamiques.
Oui, je ne discute pas ça et je suis ravi de ce débat qui s'instaure entre nous. Ce que je discute, c'est l'inanité de considérer comme article 2 le plus souvent, puisque l'article 1 définit soit la monarchie, soit la république, que l'islam est religion d'État. Mais depuis quand un instrument politique, un formalisme, un cadre de l'exercice politique puisse avoir une coloration confessionnelle? C'est simplement un cadre. Ce sont des hommes et des femmes, selon leur conscience, qui adhèrent ou non à une tradition religieuse. Donc le but de la réforme, c'est au moins de faire sauter cette ineptie pour certains.
Alors là, c'est une réforme, non pas dans les questions religieuses, mais dans les questions politiques. Parce que il va de soi que le pays qui se déclare dans sa constitution musulman, ben il l'est. Il l'est au-delà des personnes, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'État pourrait se réclamer musulman, mais pas forcément ses sujets. Beaucoup de citoyens dits musulmans dans des pays musulmans ne le sont pas. On rencontre des déclarations d'athéisme de plus en plus importantes, ou même de conversion à d'autres religions autres que l'islam. Mais la question, si l'État il s'attarde sur cette question-là, qu'il est islamique, c'est surtout pour dire à ceux qui tenteraient une quelconque réforme qui va dans l'autre sens de la politique de l'État, de leur dire, attention, ceci est une chasse gardée, ce pays est, il est musulman, donc quand il s'agit de réforme, il a obligatoirement un droit de regard, et donc de réforme.
Et ça sous-entend qu'il y a là, et ça induit, deux difficultés majeures. La première, que faire des citoyens qui ne sont pas musulmans? Sont-ils des citoyens de seconde zone? N'ont-ils pas accès à la citoyenneté pleine et entière? C'est véritablement un problème d'ordre démocratique. Et le second point, quand il y a une opposition politique, ça peut arriver, eh bien, de fait, on devient un hétérodoxe et un hérésiarque, parce que l'opposant politique devient un mécréant, et s'il advenait qu'il y eût des mécréants, ils deviennent de fait des opposants politiques.
Ce que vous dites est très intéressant, il est problématique, mais il deviendrait problématique lorsque cette composante de la société, d'une société musulmane qui ne se veut plus ou qui ne se dit plus musulmane, pourrait devenir problématique dans le sens où elle a une certaine majorité. Au jour d'aujourd'hui, ils sont très peu nombreux par rapport à l'ensemble, bien évidemment, les membres qui ne se disent plus musulmans ou qui se disent convertis, etc., etc. Alors, cela soulève la question que certainement il doit y en avoir d'autres qui sont dans la même situation mais qui ne se déclarent pas. Mais en tout état de cause, le nombre de ces gens qui ne se disent plus musulmans reste assez minoritaire, très minoritaire même par rapport à la majorité.
Oui, ma question, elle était sur le principe en tant que tel. Vous l'avez ramené à une question de nombre. C'est très bien, c'est une réalité. Revenons maintenant à votre programme là, de réforme et dans votre ouvrage paru chez Al-Bourak, La réforme en islam, quelques clés de lecture. D'abord, vous évoquez la réforme de l'islam et son rapport à l'histoire, cette relation avec l'histoire et comment ça a été. Il y a ce hadith, cet aphorisme du prophète qui veut qu'au bout de chaque génération, certains traduisent au bout de chaque siècle, il y a des réformateurs avec des idées réformistes. Ça s'est appliqué à travers l'histoire.
Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ce chapitre, il a un but, c'est d'apporter quelques éléments de réponse aux gens qui pensent que la religion musulmane n'est pas réformable. Donc, ce chapitre entier se consacre à cette question-là et se base, entre autres, sur ce hadith, parce que bien souvent, ceux qui pensent que la religion islamique n'est pas réformable sont musulmans. Donc c'est une façon de leur rappeler que même dans les fondements de la pensée islamique, la réforme est quelque chose d'existant et même de louable et encore heureux qu'il y ait des réformateurs et des réformes.
Je ne voudrais pas saper le fondement sur lequel se fonde la réforme en tant que telle, mais est-ce que le hadith en tant que tel, lui aussi, n'est pas apocryphe ? Je m'adresse au codicologue que vous êtes et aux spécialistes des textes anciens.
La question qu'il soit apocryphe ou pas, dans ce contexte-là, ne nous intéresse pas. Il ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est que ce hadith est monnaie courante et utilisé dans la pensée de la tradition islamique. Donc on répond à ces tenants de ces théories-là avec les mêmes outils qu'ils utilisent et qu'ils brandissent eux-mêmes.
Alors est-ce que ça ne nous mène pas à la question de cette réforme, si elle se fait avec la raison religieuse dévote, dans une rationalité fermée, elle ne serait pas vouée à reproduire du même ?
C'est possible. C'est un cas qui est possible. D'ailleurs, lorsqu'on interroge un petit peu l'histoire de la pensée islamique, bien souvent, c'est quelque chose qui se fait dans un cercle fermé, clos, qui finit par par faire du réchauffé. Maintenant, ce qui sauve un petit peu la donne, c'est que l'islam est un monde pluriel et les espaces dans lesquels il évolue, il ne partage pas forcément la même façon de voir les choses. Et ça donne un petit peu la liberté et ça ouvre plus d'espace de champ du possible.
أدينوا بدين الحب أننا توجهت ركائب فالحب ديني وإيماني لقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح تورات ومصحف قرآن فالحب ديني
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de réforme de la tradition religieuse islamique et de la religion en tant que telle avec Karim Ifrak, islamologue, chercheur au CNRS, codicologue, spécialiste de l'histoire des textes et notamment des textes anciens. Et dans ce dernier ouvrage, La réforme en islam, quelques clés de lecture parues chez Al-Burak dans la collection « Je veux comprendre », nous essayons à notre niveau de comprendre cette complexité effectivement de la réforme. Ça ne s'arrête pas, on n'entend parler que de cela. Pour certains, ça s'apparente à une cautérisation de jambes en bois, alors qu'il faudrait, les enjeux sont cruciaux, sortir par le haut. Juste avant, vous avez évoqué la question des réalités plurielles de la tradition. Et comment peut-on donc réformer dans un contexte où on a une pluralité de points de vue, de sens et en l'absence d'une autorité centrale ?
C'est au fait tout l'objet de ce livre, c'est d'expliquer par un moyen le plus simple possible que la question de la réforme est certes une exigence qu'il faut travailler au jour le jour, bien évidemment. Mais en même temps, il faut prendre en compte, en considération, que cette réforme ne peut pas s'appliquer partout, à tous les temps. Je prends l'exemple du Maghreb qui a sa propre culture, sa propre tradition en termes d'école de jurisprudence, sa propre tradition en termes de dogmatisme, de spiritualité, etc. etc. Si on veut opérer une quelconque réforme, il faut que cette réforme épouse, et j'insiste sur le mot, épouse la réalité du terrain. Parce que la réforme qu'on pourrait opérer dans les pays du Maghreb ne peut pas en aucun cas s'opérer de la même façon ou de la même fluidité qu'en Asie centrale, qu'au Moyen-Orient, qu'en Europe, etc., etc. Ça n'est pas possible. Ça serait tout simplement essayer de faire rentrer un cube dans un triangle.
Oui, un cube ne rentrera pas dans un triangle. Dans un cas, on est en trois dimensions, dans l'autre, c'est plan. Mais j'aime bien l'image. De ce point de vue, si on tient compte du contexte social, voire géographique, la réforme est à la fois religieuse, mais aussi politique, au sens fort du terme.
Ah, mais complètement, complètement.
Alors, vous évoquez dans un chapitre ad hoc la question de la modernité. En dehors de la modernité technologique et la raison instrumentale, comme on dit, il y a aussi la notion du progrès, la notion de la modernité des idées, la modernité politique. C'est-à-dire, on y revient encore, les libertés fondamentales, le projet démocratique ou la promesse démocratique, parce que c'est un point à l'horizon, la liberté de conscience, l'égalité des êtres, le positivisme juridique, tout cela doit être pris en considération.
Tout à fait, bien sûr, parce que la réforme, elle touche en priorité l'humain. Et donc l'humain, c'est d'abord une société humaine, et cette société humaine, elle est faite de culture, de politique, d'économie, d'histoire, d'anthropologie, etc., etc. Cette société, c'est une mosaïque. Il faut prendre en considération toutes ces composantes, et pour pouvoir sortir avec quelque chose qui lui scie, parce que là, on est vraiment dans du sur-mesure, dans du sur-mesure. On va pas arriver avec une chemise taille XL et essayer de la mettre sur quelqu'un qui est encore sur une taille S et l'inverse est vrai aussi.
Le gringalet aura sa chemise beaucoup plus grande que lui et l'autre pourra pas s'habiller, bien entendu. À titre d'exemple, c'est la question du bonheur, donc la conquête du bonheur. De ce point de vue-là, est-elle liée avec la quête du salut ou est-ce que c'est, comme l'aurait dit Saint-Just, une idée nouvelle dans les contextes islamiques? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est obnubilé par l'idée de ne pas périr par le feu de l'enfer ou aller jouir des délices paradisiaques ou est-ce que même ces visions du monde ici-bas et dans l'au-delà doivent être revues avec un peu plus d'intelligence?
Écoutez, ces vérités d'ici-bas revues avec un peu plus d'intelligence, je pourrais que être d'accord avec vous. Maintenant, ce qui me gêne, c'est le terme intelligence, parce que bien souvent, ce qui est galvaudé, c'est que la religion se fait dans un espace, la pensée religieuse en tout cas, se fait dans un espace qui est complètement irrationnel. Je suis pas d'accord avec cette idée-là. La pensée religieuse se fait dans un espace rationnel. Maintenant, les acteurs de cette religion se trouvent dans un dégradé au niveau de l'intelligence et puis se trouvent également dans un dégradé de la manipulation. De la manipulation soit au niveau des cercles politiques ou des cercles théologiques, mais et ce sont ces facteurs-là qui finissent par donner cette image que la pensée religieuse est complètement irrationnelle et que en face, bien évidemment, la pensée non religieuse elle est forcément rationnelle, ce qui est juste une approche un petit peu populiste à mon sens.
Alors, je reviens au mot intelligence et qui n'est sûrement pas dans son sens anglais, puisqu'ici, il ne s'agit pas d'espionnage. C'est une intelligence hybride, j'ai omis de la qualifier ainsi, celle du cœur et celle de l'esprit. Il n'en demeure pas moins que certaines pensées dites magiques, superstitieuses, mélangeant l'irrationnel, le merveilleux, l'extraordinaire, le miraculeux, dans l'histoire, fragilise l'esprit de bon nombre de fidèles.
Je suis bien d'accord. D'ailleurs, si vous avez pris le temps de lire le livre, c'est que sciemment, les chapitres, ils ont une succession un petit peu qui interpelle l'intelligence, parce qu'il y a un chapitre entier qui consacre à la question de modernité, et que derrière, il y a le rapport avec les cercles savants. Et là, je pense que vous avez lu le livre et vous avez bien vu que je n'ai pas été très tendre avec eux, bah, tout simplement parce que la modernité, pour qu'elle puisse survivre et se développer, elle a besoin d'être portée. Et quand elle a besoin d'être portée, il faut qu'elle soit portée par des cercles intelligents. Et malheureusement, lorsque l'intelligence manque à ces cercles, bah, elle ne peut pas s'épanouir. Maintenant, il faut pas jeter la faute sur la pensée elle-même, mais sur ceux qui l'ont portée au nom d'un idéal caché ou non.
Et donc c'est pour ça que nous arrivons à la réforme et le rapport, cette fois-ci, à l'élite sachante, la relation avec les oulémas, ce terme générique pluriel qui parle des savants, des docteurs de la loi, etc. Donc vous faites un distinguo entre ceux qui sont sincères, probes, rigoureux intellectuellement, et ceux qui s'érigent comme les gardiens de l'orthodoxie et les gestionnaires du sacré.
Ben oui, malheureusement. Et puis, ce qui est frappant dans ce chapitre-là, c'est que j'ai essayé de retracer ce qui s'est déroulé sur les trois derniers siècles pour les attacher à notre actualité. Et le regrettable dans cette affaire, c'est que ce dessin que j'ai brossé par rapport à ces élites sachantes, qui dans le fond ne le sont pas, parce qu'on est plus dans le mimétisme que dans la pensée, le même scénario se répète dans notre actualité, et il continuera malheureusement à se répéter encore et encore.
Et c'est vrai que vous n'êtes pas tendre, et ça c'est aussi votre exigence à vous, pas avec une institution multiséculaire comme la Qaraouine, l'université de Fès, dont nous rappelons toujours qu'elle était fondée par une femme en 858. Et c'est une des plus vieilles universités au monde encore en exercice, même si vous fustigez, et non sans raison, un peu l'enseignement qui est suranné.
Et tout à fait. D'ailleurs, vous venez de citer l'université Qaraouine, qui est dans l'idée galvaudée qu'elle a été fondée par une femme, histoire de mettre un petit peu en exergue le rôle de la femme et de la pensée dans le monde musulman, alors que c'est complètement infondé. Ça n'est pas une femme qui a construit cette université. C'est juste une légende qui a été forgée de toutes pièces par un historien, et que le vrai fondateur de cette université, qui à l'époque n'avait pas encore le prestige et la prétention d'université qu'on essaie de lui donner, mais c'était bien un prince qui voulait se racheter par rapport à quelques conduites pas très exemplaires, et donc qui essaie d'ériger ce nouveau temple du savoir, et avec l'idée géniale, bien évidemment, que c'est une femme qui en a eu l'initiative.
Ah, hélas, vous nous faites écrouler toute une joie de voir que c'était une femme venant de Kairouan, donc de Kairouan, avec sa sœur. La légende, elle est bien construite.
La légende, elle est magnifiquement construite, oui.
Revenons à l'université Al-Azhar. D'abord, elle est fondée par des chiites.
Oui, les Fatimides.
Les Fatimides, qui devient le haut lieu du sunnisme. C'est une bonne réponse à ceux qui pensent que de tout temps, il y a eu une friction indépassable et un conflit entre chiites et sunnites.
Mais rappelons qu'elle a été fermée quand même pendant presque un siècle, qui a permis le passage entre sunnisme et chiisme et sunnisme.
Et elle aussi, qui fut le lieu du savoir et de la connaissance, devient aussi un endroit où l'on répète des idées totalement obsolètes.
Malheureusement, parce qu'il est vrai que le projet à la base de Al-Azhar, qui a été fondé par les Fatimides, il avait une mission, c'est-à-dire s'attaquer à la pensée musulmane sunnite pour la détruire jusqu'à dans ses menus détails. Et on peut, même si le projet peut paraître un petit peu choquant, mais dans le fond, on peut saluer saluer le caractère académique et la grande qualité des enseignants et des matières qui étaient en cours à l'époque, parce que quand même, pour venir à bout d'une pensée qui était dominante, ça n'est pas chose facile. Le choc civilisationnel et le choc militaire entre les Fatimides et les Seljoukides a fini par triompher sur les idées, mais après, au niveau matériel, ce sont les c'est Salah ad-Din, donc les Ayyoubides,
le fameux Saladin de l'histoire,
tout à fait, qui va finir par mettre le feu à cet institut, qui va rester des générations fermé jusqu'à ce que les gens oublient un petit peu, pour la réouvrir en tant que université académie, mais en tant que simple mosquée. Et ce phare de la connaissance et du savoir du monde musulman, il va continuer à exister jusqu'à ce que ces derniers temps il va s'y propager une idéologie tellement rétrograde, tellement passéiste, que le grand Taha Hussein va se soulever contre cette oligarchie savante qui tenait
parce
un petit peu la maison.
Étudiant.
Il était ravi d'être étudiant de Lazare, mais avant de pénétrer Lazare, parce qu'une fois qu'il y met les pieds, il est tout simplement scandalisé, et avec le temps, il va tout faire pour offrir à la pensée arabe-égyptienne et arabe-islamique plus tard quelque chose de nouveau, ou au moins un deuxième son de cloche.
Oui. Dans son autobiographie, mais à la troisième personne, Les Jours, il parle quand il y allait avec plaisir les premiers temps, et puis il découvre que c'est devenu, en tout cas au moins pour son époque, ça l'est assurément maintenant aussi, un foyer de quoi, de salafisation des esprits, on aurait utilisé le terme.
Je ne dirais pas que dans Lazare, il y a de tout, de n'importe quoi, mais je mettrai de côté les différents mouvements idéologiques, qu'ils soient salafistes, islamistes ou autres. Mais ce qui m'importe, moi, en tant que spécialiste de l'histoire de la pensée, c'est que Lazare, regrettablement, a fini par ne produire qu'une pensée sclérosée, une pensée figée complètement dans le marbre, et malheureusement tenue par des groupes qui n'étaient plus les propagateurs d'une pensée ouverte, parce que la base d'une pensée, c'est de donner matière à penser, mais ils sont devenus les porte-drapeaux d'une pensée unique et imposée. Et ça, par contre, c'est malheureux.
Bien, alors, pour le temps qui nous est imparti et qui nous reste, je voudrais aborder avec vous deux sujets fondamentaux. Le premier, donc cette relation aussi avec les textes, ce rapport aux textes. Comment font-ils ? Est-ce que pour la partie prescriptive, la partie législative, normative, principielle, paradigmatique, il faut les prendre au pied de la lettre ? Et donc ça se traduit avec le débat actuel en Tunisie, au Maroc, quant à la dévolution successorale pour ce qui concerne l'équité, l'égalité même, au niveau de l'héritage, donc le statut personnel, etc. Ou est-ce que il faut y tenir mordicus, il n'y a pas une quelconque compréhension allusive, métaphorique, allégorique de ces passages-là.
Pour tous les spécialistes du texte coranique, de la jurisprudence, de la théologie et tout ce qui va avec, on est presque unanime sur le fait que le texte, il est scindé en deux parties. Une partie qui est immuable, qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais. Et puis une partie qui est complètement, intégralement perfectible. Le problème ne se situe pas dans la seconde partie. Ce qui est perfectible, très bien, on n'en parle plus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie immuable. Et cette partie immuable, moi, à mon sens, elle-même, elle est scindée en deux parties. Il y a une partie qui est intégralement immuable lorsqu'elle touche, par exemple, à la question de la salate, la prière, de la zakat, de l'aumône, etc., etc. Mais maintenant, dès qu'on dépasse ce premier stade, et qu'on rentre dans la prière, dans la zakat, etc.
Zakat étant toujours l'aumône.
L'aumône, eh ben on rentre de plein pied dans le perfectible. en plein pied. La question que vous venez de soulever, celle de l'héritage par exemple, eh bien écoutez, on est dans l'immuable, parce que la question de l'héritage est quelque chose qui est intrinsèque à la religion musulmane, certes, mais maintenant, comment il faut faire, comment le mettre en pratique, on n'est plus dans l'immuable, on est dans le perfectible.
Karim Ifrak, je voulais pas vous interrompre dans votre élan. Comment faire dans ce cas? Est-ce que on l'adapte à l'exigence contemporaine ou on dit simplement ces passages-là étaient considérés comme une jurisprudence à un moment donné de l'histoire, notamment lors du ministère apostolique du prophète, où on allait passer d'un état tribal à une confédération pour organiser la cité, notamment de Médine, cette oasis-là? Ou est-ce que on met de côté tout cela et on dit il n'y a pas mieux que le droit positif?
Le droit positif, pourquoi pas? La jurisprudence à 90% elle est faite de droit positif et qu'on ne soutienne pas le contraire. Maintenant, je n'ai pas la prétention de répondre de façon formelle parce que je ne représente pas une institution moi tout seul, bien heureux, heureusement. Mais je dirais que sur ce type de questions qui sont certes délicates, qui sont certes complexes, mais qui ne devraient pas être tabous. Ils ne devraient pas être tabous parce que certains, ils brandissent tout de suite cette pancarte. Pour moi, c'est juste une façon d'interrompre le processus de réflexion. Et ça ne devrait pas exister, c'est inadmissible. Ces gens-là, puisqu'ils pensent mordicus, qu'ils ont raison, eh bien qu'ils ont des pattes. Qu'ils en débattent. Voilà, c'est très simple.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'islamologue Karim Ifrak, codicologue, spécialiste des textes et de l'histoire de la pensée islamique. Nous parlons de réforme, la réforme en islam, et le titre est important, ce n'est pas la réforme de l'islam. Quelques clés de lecture. Vous avez évoqué de ce débat. Je ne voulais pas revenir à des considérations très actuelles. Asma al-Marabout a démissionné d'une institution religieuse parce qu'elle a abordé ces questions d'héritage et du statut personnel. Donc le débat se poursuit. Est-elle acculée à la démission? A-t-elle elle-même démissionné parce qu'elle n'était plus d'accord? Donc le débat crée des remous.
Écoutez, je connais un petit peu Asmane Brabat à travers ses écrits qui sont éclairés, éclairants, qui sont toniques, qui sont courageux. Mais il se trouve également que je connais un petit peu leur habitat, je connais un petit peu leur façon de faire.
Leur habitat étant la Ligue.
La Ligue, voilà, des oulémas au Maroc, à travers son président. Et il se trouve que cet institut, elle est plutôt du genre ouvert. Alors, pour ceux qui soutiennent l'idée qu'elle a été acculée à la démission, je ne pense vraiment pas. Je ne le pense vraiment pas parce que, de par le passé, Asmane Mrabat a osé plusieurs écrits qui auraient pu lui valoir une démission forcée, mais ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, elle n'aurait jamais dû démissionner et les laisser, si jamais c'était bien l'œuvre de l'Arabita, la laisser se manifester de façon à ce que ça écarte toutes les suspicions.
Et je rappelle que l'Arabita étant la ligue des oulémas marocains. Dernier point, vous l'abordez aussi, c'est la réforme en islam relative à cette désacralisation de la violence. On ne peut pas se prévaloir de la religion pour semer la terreur, ça a toujours été dit. D'ailleurs, on ne doit pas croire en l'efficacité de la violence, et c'est d'aventure, on y croit, au moins qu'elle ne soit pas nimbée ou auréolée d'un halo de sacré. Et là, vous voulez revenir à toute la littérature sur l'intervention des phalanges angéliques, ces puissances célestes qui viennent aider les armées terrestres, ou y a-t-il quelque chose à faire dans l'enseignement et surtout dans les prêches des imams du haut de leur chair?
Là, vous soulevez une question très sensible, non pas par rapport à la question de la violence et de sa sacralisation, mais par rapport aux prêches et à la formation de ce que j'appelle les pseudo-imams. Il y a un énorme écart entre un imam formé puis un autre qui est complètement déformé, disons-le.
Et autoproclamé.
Alors bien évidemment, dans ce chapitre, je mets l'accent surtout sur les dangers du littéralisme. Et le grand malheur, c'est que un grand nombre de ces imams qui sont autoproclamés n'ont une lecture du texte qu'à travers le littéralisme. Et lorsqu'ils poussent un petit peu la curiosité plus loin, ils vont se procurer un ouvrage qui date du 2e, du 3e, du 4e siècle de l'Égyre et qui a été produit dans un contexte particulier et qui essaye donc de l'appliquer dans notre 21e siècle, alors que l'écart à la fois idéologique, contextuel, géopolitique, etc. est énorme. Et comme je l'ai déjà rappelé dans ce chapitre, la question de la violence que moi j'appelle, lorsqu'il s'agit de djihad, de recours à la force légitime, cette force ne peut se faire que sous l'autorité du pouvoir central. Ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'individu. C'est vraiment l'État, c'est vraiment la nation qui en parle à travers son autorité.
Oui. Démocratiquement élu, et quand on y est acculé dans le cadre des guerres dites conventionnelles, dont la longue et lente maturation de l'humanité essaye de les circonscrire. On n'y parvient pas, mais en tout cas, les choses se présentent ainsi. Et à la formation des liturges, des imams, des ministres du culte, c'est vrai. Il y a aussi cette idée qui, pour certains, disent « Mais pourquoi ça n'est pas adressé à vous personnellement, Karim Ifrak, et au contraire, vous faites un travail considérable. Vous n'avez pas à vous tracasser à propos de la réforme, puisque la souplesse et la simplicité du dogme islamique ont fait en sorte qu'à travers l'histoire, cette tradition religieuse s'est adaptée à des contextes fort différents et contradictoires. » Ça va depuis la monarchie de droit divin jusqu'au marxisme-léninisme, dépourvu certes de sa dialectique matérialiste et athée, tout de même pour que ça soit conforme à une religion. Et donc, les choses vont se faire par elles-mêmes.
Alors c'est vrai pour la première partie que l'islam il a ce pouvoir de s'adapter au contexte au contexte soit géographique soit temporel. Mais c'est complètement infondé que les choses se sont mises toutes seules. Il y a des hommes derrière tout ça, il y a des acteurs derrière tout ça, il y a des dynamiques derrière tout ça, et les choses ne se mettent jamais, jamais toutes seules. Ça, il faut...
Parce que des hommes et des femmes s'y sont attelés à travers l'histoire, donc ça, il faudra le dire.
Tout à fait. Tout à fait. Et quand je cite les hommes, je le cite avec un H majuscule, voilà, qui englobe et l'homme et la femme.
Et qui, parce que pour certains, c'est un enjeu majeur, un enjeu de civilisation. Et encore une fois, c'est au cœur du projet démocratique. D'abord, cette égalité ontologique entre les êtres, les hommes et les femmes, mais aussi une égalité juridique. Peut-être une dernière question, Karim Ifrak. À propos du constitutionnalisme, on a vu qu'au XIXe siècle, et notamment en seconde moitié, un vent de réforme, de modernité, qui a poussé les théologiens, les oulémas, mais aussi les acteurs politiques, à privilégier la loi fondamentale. À ce moment-là, la loi fondamentale ne s'embarrassait pas trop de considérations relative à la charia, à la loi dite religieuse. Et comment se fait-il qu'à la fin du XIXe siècle ou à la charnière du XIXe, XXe siècle, on était plutôt dans cette optique-là et qu'un siècle plus tard, on entend, c'est moi qui assume le terme, des inepties ou des impéricies d'analyse qui veulent appliquer la loi de Dieu parce qu'on aurait scruté sa volonté et l'imposer à autrui et à ses semblables.
Écoutez, juste avant le 19e siècle, le monde musulman, ou les mondes musulmans, bien qu'ils aient été fragiles, ils avaient une certaine stabilité. Cette stabilité a permis aux dirigeants, donc aux hommes et aux femmes qui tiennent le haut du pavé, de réfléchir sur ces questions-là et de dire que, en plus de la charia, il y a toujours moyen de se reposer sur la loi positive. Très bien, parfait. Sauf que, avec le début du XXe, le monde musulman va subir tout simplement le colonialisme et ce nouveau phénomène va complètement le fragiliser. Il va fragiliser ses institutions et ça va provoquer donc un vide énorme au niveau du terrain et ce vide, fort regrettablement, il va être occupé par des dynamiques qui jusque-là étaient inexistantes et qui n'ont aucune compréhension de la question et politique et religieuse et qui vont commencer à nous produire du grand n'importe quoi fort malheureusement et qui continue à occuper un petit peu notre espace actuel.
Et donc finalement c'était une question de domestication, de manipulation de la tradition religieuse pour d'autres fins que spirituelles, pour des considérations politiques. Et donc s'il y a émancipation, éducation, éveil des consciences, on sortira de l'ornière.
J'en suis convaincu. Parce que plus la société est éduquée, mieux elle prend de la hauteur, du recul, et elle comprend mieux les différents discours qui sont en circulation. Et dans ce même espace, il y a des dynamiques tellement fortes, tellement importantes en termes de réflexion, que les petites idées qui ont cours aujourd'hui et qui ont dominé en partie, mais pas tout, bien heureusement, l'espace politico-religieux dans le monde musulman, aurait eu juste un petit quart d'heure.
Bien, alors, merci, Karim Ifrak. Vous contribuez par votre recherche et votre production intellectuelle à une meilleure lisibilité de ces choses très complexes. Merci d'être venu nous les dire.
Merci à vous.
Sur France Culture, à l'émission Questions d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franklin. أبابا سيدي بابا والعياط على بابا يا بن حمدوش
البني علا لا تسال بني علا لا بابا بشيبا تلقى واجي زنزور مول اللوبا عريالي
يا سال بني علا لا سال بني علا لا بابا بشيبا تلقى واجي زنزور مول اللوبا عريالي
يا سال بني علا لا تسال بني علا لا بابا زنزور مول اللوبا والشراج مهنير
هو الشفا في الأخرى
وانا تنيت الخير فيك وفي مولانا كسير وزملك بالتحرير
ماشي شيخ الريبة
وحدو راح تعاقلي فين مشيت انا يا علي سيدي محروم علي
ادرخ الخيمة سيدي علي
سيرا وللوال شال خف جناح بس مشيت صر والوالي مشاطر
مول النوبة عريالي
وعيا سيدي صلي على النبي
اللهم صلي للنبي
وما دامت ايام دايمة
اللهم صلي للنبي
ويالي حياني والهايمة
اللهم صلي للنبي
والله صلي على
النبي
ما دامت ايام
دايمة
ويالي حياني
والهايمة
بسم الله ما شديس يا نبي رسولي
بالحمد والشكر برضاك عليا
يا لي بالحمد والشكر برضاك عليا
يا لي بالعزاز والشكر برضاك عليا يا رسول الله امولي محمد.